Social Club, Frédéric Taddeï.
Ce soir, je reçois deux écrivains, deux amoureux de Venise et de Casanova, Philippe Sellers qui publie Medium, son nouveau roman chez Gallimard, et Gabriel Matzneff qui publie Les Nouveaux Émiles de Gab Labrafal. C'est du courrier électronique et c'est chez Léo Cher. Que les années 2000 ont apporté de nouveau artistiquement, culturellement, intellectuellement, vous en parlez d'une certaine manière dans vos livres respectifs et on va en parler pendant toute cette émission, mais première impression, Gabriel Matzneff.
Moi je dirais Harry Potter, parce que ce qui m'a impressionné, c'est ces dernières années, de voir dans les autobus des gamins et des gamines, disons de 12 ans, plongés dans des livres de 800 pages, passionné par la lecture, et ça, toutes ces dernières années, les enfants ne lisent plus, les adolescents ne lisent plus. Eh bien, je me disais que ces enfants qui lisaient avec passion ces 7 volumes, qui ont lu les 7 volumes avec une passion toujours renouvelée, eh bien, seraient capables, lorsqu'ils en auraient 14 ou 15, d'ouvrir un gros roman de Balzac ou de Dostoïevski ou de Thomas Mann. Et donc, ça me faisait plaisir. En plus de ça, cet auteur de grand talent venge tous les écrivains qui n'ont pas ces tirages. Donc vraiment, c'est une revanche, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'ai lu, moi, tous les Harry Potter, je les ai lus dans la version italienne, parce que j'ai vu le film à Naples dans un cinéma de la Via Crispi, et quand le premier film. Et ça m'a tellement plu que je suis sorti dans une librairie et j'ai acheté le premier volume. Et en même temps, ça m'entretient mon italien, parce que nous avons, parmi les nombreux points communs, nous avons Philippe et moi la passion de l'Italie. Et donc, mon italien est en partie est très bien, je parle bien l'italien, mais c'est en partie aussi grâce à Harry Potter qui est très bien traduit de l'anglais.
Philippe Sellers, est-ce que vous avez lu Harry Potter, vous ?
Non, je me contente je me suis contenté autrefois d'apercevoir cette Rowling rentrée chez Gallimard.
C'est l'auteur d'Harry Potter. Hein.
C'est l'auteur.
Oui.
L'auteur, non. Je trouve que Gabriel a beaucoup de courage, et ça, c'est son côté populaire, son côté participatif, son côté sociétal. Il s'intéresse à ce genre de phénomène. Il rêve probablement à ce genre de tirage qu'il n'aura jamais. Les années 2000, Harry Potter, oui, c'est pas mal joué. Oui, les jeunes viendront à la vraie littérature après.
Alexandre Dumas a donné le goût de la lecture à des gens. Je veux dire, le fait de se plonger dans un gros livre, c'est ce que je voulais dire. Et les histoires sont assez intéressantes. Mais moi, c'est Alexandre Dumas qui m'a donné le goût de l'histoire.
Il ne lit pas, il regarde un film.
Même quand c'est écrit, vous voulez dire.
Oui, voilà. C'est le genre de livre, comme le roman américain en général, que les gens veulent et recherchent pour tout simplement avoir l'impression de voir un film. Mais ils ne lisent pas les mots, ils ne lisent pas le style. Non, les années 2000, il faut quand même être sérieux. C'est une époque de dévastation considérable qui laisse les gens tout à fait abrutis, notamment en France, pays qui se rétrécit à vue d'œil et qui n'est même plus un hexagone.
Avec lequel vous n'êtes pas tendre dans votre livre, on va en parler.
La France. Les années 2000, c'est un changement de calendrier planétaire qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on vit cette époque, c'est World Trade Center. Pouf, l'effondrement, voilà. À partir de là, nous sommes dans un nouveau calendrier. C'est pas souvent qu'il y a des transformations pendant qu'on va vous parler, pendant toute l'année, dans la guerre de 1914-18, que vous allez revisiter les tranchées, revoir des poilus en train de, allemands et français, etc., la boucherie, etc. Bon. Vous êtes dans un retour en arrière, où nous sommes dans l'époque la plus réactionnaire et la plus régressive qui a jamais existé, avec au-dessus ce nouveau calendrier planétaire qui fait que vous devez penser en fonction de ce qui s'est passé à New York ce jour-là.
Pour la boucherie, nous sommes dans l'actualité parce que les boucheries d'Irak et d'Afghanistan et même les tueries de Serbie, tout ça fait au nom de l'ordre moral, du nouvel ordre mondial qu'avait annoncé le président Bush. Je me souviens très bien de ce discours.
Le père,
le papa Bush, la première
l'axe
guerre
du mal,
la première guerre d'Irak en janvier 91.
Oh, c'est inoubliable.
Voilà. Et bien depuis, nous sommes, c'est exactement les gens ont du fromage blanc dans les cerveaux. Ils pensent tous la même chose. Enfin, c'est-à-dire qu'on leur convient. On les convainc tellement qu'ils doivent... Alors ça, encore une nouveauté des années 2000. 5 fruits et légumes par jour, partout, placardés sur les murs. En général, autrefois, c'était les dictateurs, c'était M. Staline, c'était M. Hitler, qui expliquaient aux gens ce qu'ils devaient manger, ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient faire. Et les gens étaient au garde-à-vous, et il fallait être au garde-à-vous, parce que sinon, ils étaient fusillés. Mais c'est curieux que dans une démocratie, dans nos démocraties, les gens... C'est pas que l'État veuille nous expliquer ce que nous devons écrire, penser, aimer... qui nous devons aimer, surtout qui nous ne devons pas aimer, qu'est-ce que nous ne devons pas écrire, ce que nous ne devons pas manger. Mais ce n'est pas tellement que l'État veuille, l'État démocratique, entre guillemets, veuille nous imposer, mais c'est la passivité avec les gens acceptent d'être décervelés comme ça. C'est ça qui m'inquiète davantage.
Mais ça
ne
devrait pas vous déplaire, ces 5 fruits et légumes par jour. Vous êtes un obsédé de la diététique.
Mais justement, mais mon cher, je ne fume pas. Mais le jour où la journée entière mondiale de l'abstinence de fumer, eh bien moi je m'achète un cigare Toscan et je me le fume. Eh bien moi qui suis un passionné de diététique, quand je vois ce genre de propagande gouvernementale, j'ai envie de me taper d'être plus indigeste, plus gras, de
manger trois... Ce sont des conseils, ce ne sont pas non plus des interdictions.
Non, mais les conseils, à notre époque, se transforment très vite en interdictions.
Un mot à ajouter sur ce sujet, Philippe Solers ?
Oh, ben oui, parce que qu'est-ce que ça peut faire que les gens soient résignés, somnambules, dans une démocratie où tout vous est permis si vous tenez le coup, si vous entretenez votre système nerveux comme il le faut, en joue carrément. Vous savez, comme aux échecs, le fameux théorème de Tartakovère, renforcer les points forts, jamais les points faibles. Donc, tout on peut avoir une vie merveilleuse en ne pensant pas aux autres, que les autres se débrouillent, et vous avez 1000 choses à faire, votre bibliothèque vous attend, la musique, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous pouvez fréquenter qui vous voulez, avoir des relations sexuelles plus ou moins comme ci ou comme ça, variées ou pas du tout, ça revient au même, etc. Vous pouvez vous isoler dans un coin, vous concentrer comme jamais, parce que c'est ça qui est intéressant. Pour l'époque où nous vivons, tout est à disposition. Bien sûr, dans une sorte de dévastation générale, mais pourtant, vous levez le nez et votre platane vous apparaît tout à coup sublime. Bon, tout est à disposition. Seulement, il n'y a personne. Alors, c'est ça qui est... Jamais la lecture n'a été aussi possible. Pas la peine d'Harry Potter. Vous avez tout à votre disposition. Vous avez tout le temps à votre disposition. Des milliers d'années.
Vous dites qu'il n'y a personne. Peut-être que les gens le font et qu'on ne le sait pas.
Alors, il n'y a personne qui... ou très peu. Voilà. Happy few, comme disait Stendhal. À la fin, c'était un remarquable prophète, hein, Stendhal. Tous ses livres sont dédiés au happy few. Happy few, ça vient de Shakespeare, et c'est les heureux peu nombreux dont nous sommes.
Et Stendhal qui d'ailleurs passait presque tout son temps en Italie.
Voilà.
Avec Gabriel Matzneff et Philippe Solers, vos deux livres sont sortis aujourd'hui. Medium, le dernier roman de Philippe Solers, qui est paru chez Gallimard, et le journal électronique de Gabriel Matzneff, Les Nouveaux Émiles de Gab la Rafale. Je l'appelle ça comme un journal. J'ai l'impression que c'est le journal continué par d'autres moyens, Gabriel Matzneff.
Non, c'est un genre différent.
Oui, c'est une correspondance, plus exactement.
C'est une correspondance.
Mais qui parle tellement de votre vie au jour le jour qu'au fond, c'est presque un journal.
J'écris à des amis, donc... ou ES ou I, et donc je leur parle de moi, qui est un sujet inépuisable.
Et vous avez donc francisé le terme email, vous en avez fait des Émile.
Oui, je n'aime pas beaucoup, je trouve que le terme du Quai d'Orsay, qui est courriel, que d'ailleurs même à la radio d'État et la télévision d'État, il emploie rarement, donc ce courriel n'a pas eu beaucoup de succès. Je ne sais même pas si au Quai d'Orsay il l'utilise. De toute façon, au Quai d'Orsay, il parle anglais maintenant. Mais je l'ai appelé Émile parce que ça a une consonance qui rappelle un petit peu Émile. Et puis alors, c'est un clin d'œil à Émile Littré, n'est-ce pas,
Jean-Rousseau.
À l'Émile de Rousseau, n'est-ce pas, naturellement, je le dis dans la préface. Et puis aussi à Émile Cioran, que nous avons bien connu. Donc c'est un clin d'œil. Mais voilà, donc je trouve que ça sonne bien. Et Gab La Rafale, c'était un surnom que m'avaient donné des camarades de régiment, parce que au fusil mitrailleur, je mettais à 100 mètres une balle dans le cul d'une mouche, disait mon adjudant-chef. Donc, on les Gab La Rafale.
Et on vous a appelé comme ça pendant toute votre vie.
Et ensuite, ça m'est resté.
C'est très beau, parce que qui célébrons-nous ce mort fabuleux qui s'appelle Kalachnikov et qui a quand même inventé l'arme quasiment absolue, qui vient de mourir.
L'arme des révolutionnaires.
Les meilleurs s'en vont.
Enfin, les révolutionnaires, les Russes. Les Russes révolutionnaires, ça se discute.
Effectivement, mais je n'ouvrirai pas cette discussion.
Voilà, donc nous avons, parce que je suis un très bon tireur, vous savez. Il paraît que c'est héréditaire, parce que ça vient de... Oui, vous avez eu des parents qui étaient, ou des grands-pères, un grand-père rafaleur, comme
j'avais
ça.
J'avais un aïeul qui a fait des voyages en ballon. J'avais d'ailleurs publié, il y a 2 ans, j'allais au Cher, un petit livre qui s'appelait Monsieur le Comte monte en ballon. Et c'était, il avait fait un voyage en 3 étapes de Paris à Spa en ballon. Et j'ai fait un petit texte, et on a réédité il y a 2 ans ce texte qui avait paru dans la Revue des Deux Mondes. C'était un ami de Barbé d'Aurevilly, du Chevalier d'Orsay.
Mais quand il était en ballon, il tirait? Parce que c'était non, ça la question.
Parce qu'enfin, il y avait des cannibales.
Ils ont atterri à Bruxelles. Enfin, ils sont atterris dans la... Les gens les ont vus arriver comme si c'était des martiens, n'est-ce pas? C'était en 1850. Le texte a paru dans la Revue des Deux Mondes en 1851. Donc maintenant, il est de nouveau disponible en librairie. Voilà. Donc, certainement, j'ai eu des tireurs, le général Dourakine, enfin, des gens comme ça, quoi. Très bien, quoi.
Alors, médium Philippe Solers, il y a une ville que vous avez en commun, ça n'est pas Naples, ça pourrait être Naples, vous avez certainement Naples en commun, mais vous avez surtout Venise, l'un et l'autre, et Philippe Solers, votre roman se passe à Venise, et vous dites qu'il y a une magie médiumnique à Venise, d'où le titre médium, hein. De quelle magie médiumnique parlez-vous exactement?
Alors, écoutez, sur Venise, il faut être très clair. Vous vous rappelez ce livre insensé de Régis Debré qui s'appelait Contre Venise.
Pour Naples.
Et pour Naples. Ouais. Livre absurde, par définition. Il n'a vu que les cartes postales à Venise et il a cru sentir la vie populaire à Naples, ce qui est d'ailleurs...
Vous le caricaturez, il disait qu'il n'y avait pas de vie à Venise, qu'il n'y avait que des touristes.
C'est très faux.
Et que la seule...
Si on rentre vraiment dans Venise, ce que j'essaye de faire justement dans ce livre, si on habite tout à fait à l'écart, dans les quartiers populaires, etc., on ne voit pas le tourisme, on est immédiatement saisi par autre chose,
la médiumnité,
justement, le temps monte vers vous, l'espace est multiple, constant, et puis vous avez des corps qui sont tout simplement les corps italiens, et les corps italiens, que ce soit les hommes ou les femmes, d'ailleurs, les femmes, je préfère, ont quelque chose de tout à fait précis à vous dire. C'est un peuple de marins, j'ai vu monter en puissance Venise, qui n'est, alors, que c'est triste Venise, autant des amours mortes, la mort à Venise, et là, j'ai vu monter Venise pendant 40 ans en puissance d'eau, c'est-à-dire on se plaint des paquebots, etc., mais j'ai vu monter cette ville absolument maritime. Alors, voilà. Donc ça a l'impression qu'on n'a pas du tout à Naples, par exemple, ce qui est tout à fait autre chose. C'est une ville pour marins. Donc quand je suis à Venise, pour sentir la médiumnité ambiante, pour savoir tout ce qui a pu se passer là de secret, je fais du bateau. Et donc, on ne connaît pas Venise si on ne fait pas du bateau à Venise. On va sur la lagune, on rentre.
Et par bateau, vous n'entendez pas gondole, hein, bien entendu.
Non, tête de gondole, j'aimerais bien l'être, comme on dit dans les librairies, mais pas du tout, parce que c'est pas du bateau, c'est de la péniche.
C'est du porte-à-porte,
c'est de la
gondole.
Péniche touristique.
On oublie toujours que Venise est une ville qu'on regarde par derrière, au fond, quand on la voit en marchant dans les rues. L'ouverture des maisons se faisait du côté de l'eau.
Oui, bien sûr. Et les pontons. Les pontons de Venise sont une des choses les plus remarquables qui soient. Enfin, il y a le linéaire d'Ombra dont je parle souvent, que Gabriel Matzneff connaît sûrement, en face de San Giorgio, est un des endroits les plus extraordinaires, le soir notamment, de Venise.
Alors,
il y a des endroits, il faut connaître.
Gabriel, pourquoi êtes-vous si fasciné par Venise, qui est quand même la capitale mondiale du tourisme
je voulais revenir un instant sur...
C'est le masque
prend. Sur ce que dit, a écrit Debray dans ce livre léger.
Venise, donc, qui est paru chez Gallimard il y a quelques années.
Eh bien oui, plusieurs années. C'est qu'il reproche, une des choses qu'on ne peut pas reprocher à Venise, il dit à Venise... Nous ne pouvons plus, nous, contemporains, aujourd'hui, écrivains de 2014, par exemple, éprouver des émotions, car tout a déjà été vécu. Un tel, il y a déjà eu, il y a eu Chateaubriand, il y a eu Byron, mais c'est complètement idiot, car on peut, c'est vrai de toute grande ville historique. Je veux dire, à Paris, dans les quartiers latins où nous habitons, chaque maison, on pourrait avoir une plaque.
On est toujours dans les chaussures de quelqu'un d'autre.
Non, mais
dire.
Oui, mais c'est absurde, parce que on pourrait dire cela de l'amour. L'amour, tous les sentiments de l'amour, la jalousie, le plaisir, le désespoir, le bonheur, la félicité, tout ça a déjà été vécu 100 000 fois par des gens bien avant que nous ne fussions nés. Mais ce qui est important, c'est ce que nous vivons, nous. C'est ce que chacun expérimente. Ce sont nos sensations. Et c'est nous qui sommes des artistes. C'est le fait que quand nous en faisons de nos expériences de vie, de nos amours, de tout ce qu'on peut expérimenter et vivre, et nous en faisons une œuvre d'art, un livre, un tableau, une musique, eh bien, c'est notre univers. Moi, je me fous. Je vous donne un exemple. D'ailleurs, en plus de ça, de Venise, c'est faux. Il y a à Canareggio, il y a l'ancienne ambassade de France, où il y a eu quand même le cardinal de Bernis qui a été ambassadeur. Il y a eu Rousseau qui était secrétaire d'ambassade. Il y a Casanova qui a aussi eu faire quelques exploits dont vous vous souvenez. Eh bien, il n'y a pas de plaque. Il n'y a quasiment pas de plaque à Venise. Sur le Palais Berlendis, où Nietzsche a écrit Aurore, il n'y a pas de place à Fondamenta Nuove. Et il y a alors celui qui a une plaque, mais il y en a très très peu. Au contraire, Venise est le contraire de la ville qui célèbre ses morts. Il y a une plaque. Alors ça, c'est les Allemands, ils sont quand même très forts. Il y a une plaque dans une rue qui part du Campo San Luca. Il y a une énorme plaque sur Goethe. Et alors, c'est très drôle, parce que, à l'époque, surtout au début du 19e siècle, quand on voyageait pas pendant 8 jours avec le Club Med, on restait longtemps, n'est-ce pas, plusieurs mois, n'est-ce pas, dans une ville, parce qu'on voyageait pas comme ça avec des trains et des avions. Eh bien, alors, c'est écrit Goethe a vécu ici, alors, je crois, je dis n'importe quelle date, mais c'est à peu près ça, du 25 septembre au 10 octobre. Mais il a sa plaque, alors que des gens qui ont vécu pendant des années à Venise, comme Nietzsche, n'ont pas leur plaque.
Le premier qui voit vraiment la Venise baroque, la Venise de Palladio, c'est Goethe.
Oui,
très important parce qu'il y a deux Venises. Sans parler du bétail affolé des touristes que vous pouvez quitter en faisant 100 mètres à côté. Vous avez une ville, disons, pour aller vite, gothique, hein, c'est la rive gauche, et puis vous avez en face les merveilles de Palladio, c'est-à-dire la Renaissance. Hein, Palladio, San Giorgio, San Dentor et tout ça. Bon, le premier qui voit que c'est vraiment une révolution architecturale très importante, parce que Palladio a rempli des chefs-d'œuvre toute la région, comme vous savez, c'est Goethe. Donc là, c'est quelqu'un qui a un regard tout à fait étonnant. Et c'est génial, parce qu'il est le premier à le dire. Par exemple, Morand
Paul
qui a écrit
Morand.
Venise, oui, Paul Morand. Venise, il ne voit pas. Il ne voit pas le Palladio. Il ne voit pas. Il est complètement prisonnier du vieux Venise. Il y a deux villes au moins. Et la Venise énergique, la Venise sur l'eau, la Venise de la Renaissance est tout à fait la plus importante. C'est pas sa marque. C'est quand que ce soit grandiose. Mais c'est cette touche admirable. Alors là, ce qui suit, c'est toute la peinture, c'est la musique, etc. Voilà. C'est une ville absolument créative. Et la plupart des gens ont parlé de nostalgie, de mélancolie, de suicide, alors que c'est le contraire.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Avec Gabriel Matzneff et Philippe Soler, je me suis demandé, en lisant vos livres respectifs, l'un et l'autre, si vous ne passiez pas autant de temps en Italie, alors qui à Naples ou qui à Venise, parce que la France vous est devenue odieuse. Vous n'êtes vraiment pas tendre l'un et l'autre avec notre pays. La France, dites-vous, Philippe Soler, refuse désormais l'histoire. Hein, ce serait ça notre problème. On serait, quant à vous, Gabriel Matzneff, alors vous dites, vous parlez des Français, les droits acquis sont en France une chose sacrée, l'excès de bien-être, de confort, de sécurité, on endort les gens à un point incroyable. Vous êtes fâché avec votre pays, chacun. Vous êtes
moi, j'avais noté ça un jour où j'avais vu des enfants de 15 ans. C'était contre monsieur, je sais plus quel ministre qui n'est plus là d'ailleurs. C'était sous Sarkozy, je crois. Des enfants de 15 ans, des jeunes filles de 18 ans, manifester pour leur retraite. Et vraiment, déjà, et puis alors, cette sensation qu'on a parfois que les gens, pense que l'État est une espèce de nounou qui doit vous assister jusqu'à la mort. Donc c'est un des éléments. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres choses.
Vous écrivez, ils ont oublié que la vie est une aventure dangereuse, risquée, pleine d'embûches.
Déjà être jeté sur la terre nu comme un ver, c'est déjà un risque, n'est-ce pas? Et ensuite, la vie est une aventure. Et si on ne la sent pas comme une aventure, autant alors se suicider tout de suite. Si nous n'étions pas des aventuriers, nous n'écririons pas les livres que nous écrivons. Et il y a un certain risque à vivre, et alors on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être à la fois. Bon, mon cher Philippe, peut-être que vous êtes plus malin que moi, j'en sais rien. Mais on ne peut pas être à la fois Baudelaire et Renan, on ne peut pas être Taine et Nerval. Je veux dire qu'il y a, dans notre époque, il y a par exemple, il y a une époque, maintenant moins d'ailleurs, votre première question, la modification. Eh bien, il y a, depuis les années 2000, il y a moins cette race qui, lorsque Philippe et moi nous débutions dans la vie littéraire, ces races des grands universitaires, qui étaient vraiment des grands universitaires, Collège de France, Sorbonne, tout ça, enfin toute la panoplie, mais qui auraient voulu aussi être aimés comme des poètes maudits, comme des écrivains subversifs, et voulaient l'argent du beurre. Eh bien, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas, ça, c'est trop facile. On peut pas. Non. Si on écrit avec ses tripes, avec son cœur, avec sa vie, et si on se jette dans la vie, et si on vit ses passions à fond la caisse, eh bien, en général, on ne termine pas au Collège de France. Enfin, on peut pas gagner sur tous les tableaux. C'est ça que je voulais dire.
Philippe Soler,
on peut gagner sur tous les tableaux à condition de n'être pas un corps constitué et de ne pas appartenir à des corps constitués, à des institutions. On peut très bien se débrouiller admirablement en abusant tout le monde, parce que la vie est une aventure, donc il faut être un aventurier dans la vie.
En étant à la fois un écrivain subversif et un directeur de collection,
absolument. Et faire de la radio, par exemple, avec Frédéric Taddeï le soir, comme ça. Bon, voilà, on peut faire tout ça très bien, sans aucun problème. Je voulais juste revenir d'un mot sur Venise, parce que Venise est une ville rusée. C'est une ville qui se masque. Elle s'est masquée dans le tourisme. Elle continue en dessous très bien. C'est pas une ville musée. C'est pas le tourisme est une impression fausse.
Une impression parfois fatigante quand même.
Oui, mais il suffit de faire 20, encore une fois, vous faites 20 mètres, 30 mètres, oui. vous êtes très tranquille. Attendez une seconde. Les Français refuse l'histoire, je dis. Pourquoi ? Ils se sentent coupables. Alors, il ne faut pas oublier que la France est le pays de la Révolution, la seule au fond qui a eu lieu et qui a envahi toute la planète. Il ne se passe pas un jour, on ne vous parle pas des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme. Je vous conseille une lecture. Dans l'état désespéré de l'ignorance générale, parce qu'on vient de rééditer un livre que personne n'a vraiment lu, admirable, Chedevral, 1847, l'histoire des Girondins de Lamartine. C'est un livre qui a été un best-seller, qui était introuvable, 2 volumes chez Robert Laffont, bouquin. Je vous assure que c'est un roman absolument extraordinaire, où vous voyez vivre la... Michelet est
c'est
après...
C'est le Bordelais qui parle. Hugo. C'est le Bordelais, Philippe Solers qui parle.
La Gironde, monsieur, est bon parti. Il a été écrasé par la montagne, vous avez peut-être appris ça un peu.
Et oui, bien entendu.
Et il ne reste de tout ça que des clichés, mais les Girondins sont absolument tabous. C'est-à-dire que là, il y a des femmes extraordinaires. Les féministes demandent l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon. Bon, eh bien, Olympe de Gouges, qui était d'ailleurs une amie de Condorcet, a été guillotinée à cause de son girondinisme foncier. Manon Roland, il y a des femmes admirables. Charlotte Corday, qui est ma préférée, n'est-ce pas, le coup de poignard dans Marat, dans sa baignoire, c'est absolument... Bon, vous lisez ce livre, et qu'est-ce que je reproche aux Français? C'est de ne pas connaître leur révolution. C'est-à-dire ce qui a changé le cours de l'histoire. Il y a 2 événements importants, le christianisme mais la Révolution française. Si les Français ne veulent pas de la Révolution française, ou s'ils la déforment avec des clichés et l'oubli, s'ils restent royalistes d'un côté et terroristes de l'autre, jamais il y aura place pour une pratique très très simple qui était... Pourquoi les Girondins ont été exécutés? Parce qu'ils étaient fédéralistes et parce qu'au fond, il y avait toujours l'Angleterre.
Mon cher, oui, mais simultanément, je vous ferai remarquer que si les Français ne connaissent pas la Révolution, ils ne connaissent pas non plus leur monarchie et l'Ancien Régime. J'entends tous ces derniers temps, je le dis d'ailleurs, il y a 2 mots que vous ne trouveriez ni dans le dictionnaire du Furtière, qui est à la fin du XVIIe siècle, ni dans celui de Littré, qui est à la fin du XIXe, c'est nationalisme et identitaire. Identitaire. Maintenant, c'est un adjectif et un substantif qui n'existe pas. Et de même, j'ai entendu tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, avec toutes ces élections qu'on a eues, Sarkozy, Hollande, je ne sais qui, parler de juste sang, enfin le droit du sang et le droit du sol. Moi, je suis français par le droit du sol, puisque je suis un fils d'émigrés russes. Et alors, j'entends toujours ces gens qui parlent des valeurs républicaines. C'est curieux, moi qui suis un petit garçon d'origine russe, quand j'étais enfant, au collège, j'étais chez les jésuites, j'étais dans une école laïque, enfin, puis j'étais comme une scolarité normale, j'entendais parler de la France. On ne parlait pas des valeurs de la République. Les valeurs républicaines, maintenant, c'est tous les hommes politiques qui en parlent. Eh bien, je signale à ces gens que le droit du sol n'est pas une invention de la République. Le droit du sol, c'est une vieille tradition monarchique. Quand on naissait en France, on était sujet de Sa Majesté le Roi de France.
Et d'ailleurs, la Révolution qui invente l'étranger, en réalité.
Et c'est Valmy. Le droit du sang naît à Valmy. Donc, je le dis à M. Mélenchon, pour qui j'ai de la sympathie, eh bien, M. Mélenchon se trompe lorsqu'il présente toujours, mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Beaucoup des ministres actuels de M. Hérault, parlent comme ça de cette conquête républicaine. Non, moi, c'est faux. Voilà, une des autres. Mais cela dit, Philippe a tout à fait raison sur l'ignorance. Vous savez, je crois que Philippe connaît beaucoup mieux Freud que moi, il a beaucoup plus lu et étudié. Je crois que Freud, après Schopenhauer, dit que la folie, c'est la perte de mémoire. Voilà. Et là, il a repris ça, n'est-ce pas? Eh bien, les gens qui n'ont pas de mémoire, qui connaissent ni leur littérature, ni leur histoire, ni leur... Comment ils peuvent vivre? Et à quoi ils peuvent se raccrocher? Je pense que le malaise vient de ça, et Lamartine, qui est un auteur injustement oublié, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a un auteur que personne n'a lu, que j'ai découvert grâce à un de nos écrivains favoris, à Philippe et à moi, qui est Nietzsche. Nietzsche parle de l'abbé Galiani, et j'en parle d'ailleurs longuement dans mon livre, l'abbé Galiani et ses lettres à Madame d'Épinay. Eh bien, je me souviens, je devais avoir 18 ans, je me suis mis à la recherche de ce livre. C'est un de mes livres de chevet. Les lettres de l'abbé Galiani, qui écrit un français, c'est l'italien qui a écrit le plus pur français du XVIIIe siècle, avec notre Casanova. Eh bien, c'est un enchantement d'humour, d'esprit, de finesse. Et il écrit à peu près au moment où arrive Louis XVI arrive sur le trône. C'est Louis XV, Louis XVI, n'est-ce pas? Non, c'est formidable. Il faut quand même le passé, c'est le présent.
Europe 1 Social Club. 21h, 22h30. Frédéric Taddeï.
Avec Philippe Sellers qui sort un nouveau roman, Medium, chez Gallimard, et Gabriel Matzneff qui publie son courrier électronique. Ce sont les nouveaux Émiles de Gab Larafale et c'est paru chez Léo Cher. Revenons en France, revenons aujourd'hui si vous voulez bien. Vous êtes effarés l'un et l'autre par ce qui se passe dans notre pays. Philippe Sellers, vous dites que le seul art qui désormais s'impose, c'est la contre-folie. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'opposer à la folie de notre temps. Tout simplement. Elle est typiquement française, cette folie ?
Alors non, elle est planétaire. Mais dans la mesure où la France a un destin planétaire, c'était la grande nation au moment de Napoléon. C'est comme ça que les Allemands l'appelaient, la grande nation. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour ne pas supporter la mondialisation, ou l'immondialisation, si vous préférez ce mot? Eh bien, c'est très simple. Je vais employer une expression tout à fait parlante. Non pas des cadavres dans les placards, mais il y a des placards dans les cadavres. Et il y a quelque chose que la France n'arrive pas à assimiler, à digérer, etc. Et c'est très très simple. On va pas remonter à la Révolution française, pourtant c'est là. Mais on va prendre une durée un peu courte, ou alors vraiment, vous avez 40, 44, vous savez que ça s'avale, mais très difficilement, puis ça ressurgit, c'est les goûts, c'est le caniveau, puis ça ressurgit, puis le Veldiv, puis ceci, non, c'est pas nous, c'est pas... C'est, bon, 40, voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on a raison d'appeler la guerre d'Algérie. Vous ne pouviez pas appeler ça la guerre d'Algérie. J'ai passé des mois dans des hôpitaux militaires avant de me faire réformer pour terrasse schizoïde, aigu, sans pension, grâce à Malraux qui m'a sauvé la vie parce que j'avais commencé une grève de la faim, tout ça dans l'Est par moins de 10 degrés tout le temps. Bon, peu importe. La guerre, c'était pas une guerre. C'est Jospin. C'était le maintien de l'ordre.
Et les événements.
Non, c'est 68, c'est des événements. Oui. Ça aussi, c'est pas une révolution. Alors, bon, deuxième placard dans les cadavres, la guerre d'Algérie. Ce n'est qu'aujourd'hui, c'était insensé que vous avez le dossier Audin qui ressort avec Osarès, qui finit, paraît-il, par avoir avoué qu'au fond, il exécutait les types qui étaient arrêtés, etc. Ben, combien d'avez-vous tué ? Oh, je ne sais pas, 30, 40, enfin bon, les enterrés, tout ça. Maurice Audin, c'est un très, très beau jeune homme, communiste, qui a été... Évidemment, le président Mitterrand était sorti à ce moment-là du gouvernement, heureusement, mais de toute façon, il a quand même validé la guillotine, hein. Il était ministre de l'Intérieur. Tout ça pèse très lourd.
Enfin,
je vous parle pas de Bousquet qui aussi parle très lourd dans une photographie célèbre. Donc deuxième. Ensuite, vous avez alors troisième événement parce qu'il faut éradiquer. C'est ce qu'a dit le président Sarkozy il y a pas si longtemps dans un discours extraordinaire. C'est mai 68. C'est effrayant mai 68. Il faut l'éradiquer. Je me demande pourquoi je suis encore là. J'aurais dû être arrêté il y a longtemps parce que c'est vraiment épouvantable. Mai 68, ces émeutiers ont tout détruit. La famille, l'école, l'université, l'autorité, le respect des supérieurs, les professeurs, la république des professeurs, d'où tu parles, connard, dis-moi, oui, c'est ça. Alors, c'est effrayant. Il y a eu, en effet, une révolution dans les mœurs, c'est évident. Rappelez-vous la communication d'avant 1968, le RTF, la télévision bloquée, enfin, tout ça. Alors, Pétain, Le Pen, le bordel,
mais
le désordre.
Pardon de vous interrompre, mais si on vous écoute, on se dit bon ben maintenant on en est loin de tout ça, on s'est libéré de tout ça. Et vous vous dites pas du tout. Vous dites aujourd'hui que tout est coincé.
Le quatrième terme, c'est que la France a été quand même vichyste, indubitablement. Encore une fois, on en parle tout le temps. Ne me dites pas le contraire, c'est dans les journaux tous les jours. Et non seulement vichyste, mais c'est ce que j'appelle à ce moment-là l'axe Vichy-Moscou, c'est-à-dire tout simplement communiste. C'est avec un parti communiste extraordinairement influent, le plus important probablement des pays européens avec le parti italien, mais le parti français, le petit pâtissier Duclos en 1969 est 22% à la présidentielle. Et là, s'ils ne sont plus là, pourquoi? Vous avez dit Mélenchon, Mélenchon est un vieux rêve. Voilà, c'est donc tout ça.
Un ami commun qui est toujours, c'est Jean Rista, l'excellent poète Jean Rista, qui est communiste. Il a un portrait de Lénine au-dessus de son lit, n'est-ce pas?
Oui, heureusement qu'il y a eu Aragon pour modérer un petit peu le réalisme socialiste. Mais enfin, passons. Les Français se sentent coupables. Ils se sentent en dehors de.
Vous dites la folie ne pense pas.
Prenez les Italiens. Les Italiens vont très bien. Et pourtant, Dieu sait, les Allemands vont très bien. Ils se sentent pas du tout coupables de leur Hitler local. Les Russes sont en pleine forme. Sochi va le prouver. Poutine fait du ski. Les Espagnols, bon, la dette diminue. Franco, pop, vous oubliez. Voilà. Donc, ces peuples vont plutôt très bien. Vous voyagez, vous les voyez vivre. Vous rentrez en France, cher ami, et vous voyez tout de suite des gens qui vous disent ça va très mal, ça va pas.
Mais enfin, dans le cadre de Gabriel Matzneff, lui, il voit l'époque et il dit notre époque est assurément la plus con, la plus débile, la plus rétrograde qu'ait jamais vécu l'humanité.
Donc, oui, les voyages ne
l'encouragent pas.
Mais les voyages, quand on rentre en France, c'est une impression qui vous saisit tout de suite, quand on voit les gens, quoi. C'est-à-dire, c'est une époque réactionnaire. C'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, et puis c'est tout.
Gabriel?
Et les gens aussi sont très ronchons ici. Extraordinairement, par exemple, n'importe quel camérière et n'importe quel garçon de café ou de restaurant en Italie, mais c'est quasiment une preuve de l'existence de Dieu, par comparaison à la façon désinvolte, souvent grossière et peu aimable. Moi, je vois Boulevard Saint-Germain dans les bistrots du Boulevard Saint-Germain, je suis toujours effaré par la façon dont les garçons de café parlent aux touristes. Mais les engueulants, c'est le touriste. L'autre jour, qui faisait l'effort, parce qu'il y en a certains qui ne font aucun effort, ils baragouinent en anglais, et ça, on ne comprend pas, tant pis pour eux. Mais ceux qui font l'effort, il avait demandé un jus d'orange. Et alors on lui apporte un truc infâme, de tout ça, qu'on verse d'une boîte en carton, un truc, et alors il a dit, non, je veux une orange pressée. Ah, mais il fallait le dire, etc. Et moi, je suis intervenu, je dis, monsieur, vous ne parlez pas comme ça des gens qui font l'effort de parler français, alors je lui ai fait un truc, et il m'a dit, mais de quoi vous vous mêlez, vous? Enfin, bref, tout de suite, la scène parisienne sortie d'un film de
je sais pas, vous n'avez pas l'air français de souche.
Oui. Ah ben oui, d'ailleurs, moi,
comment vous appelez-vous? Matzneff, c'est bien ce que je
c'est louche.
21h, 22h30, Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Avec Philippe Soler, c'est Gabriel Matzneff qui publie tous les deux aujourd'hui un livre médium chez Gallimard pour Philippe Soler. C'est Les Nouveaux Émiles de Gab La Rafale pour Gabriel Matzneff, c'est chez Léo Cher. Et tous les deux, alors sans vous avoir communiqué, sans vous être concerté, de votre côté, Philippe Soler, vous écrivez toujours parlant de cette époque, la folie de notre temps. Vous dites la folie ne pense pas, mais elle a une idée fixe. L'histoire est un mal, un grand mal qu'il faut convertir en bien. Et de votre côté, Gabriel Matzneff, vous nous dites que jamais on a vu une époque où l'ordre moral était aussi terrible pour les jeunes écrivains. Vous ajoutez tout ce qui est con, c'est-à-dire les ligues de vertu, le politiquement correct nous vient d'outre-Atlantique. On a l'impression véritablement que vous voyez cette époque comme une époque, mais noire, 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 tous les deux.
Non, je pense qu'un artiste aujourd'hui, nous parlons de notre du petit bout de la lorgnette qui est celui de l'expérience d'écrivain, chacun a notre expérience personnelle. Nous ne sommes pas des sociologues, moi, je ne suis pas.
C'est du ressenti.
Et Philippe ne l'est pas non plus. Non, mais il y a un certain rétrécissement des libertés. Je donnais comme exemple le procès qu'on a fait, qu'il a perdu en première instance, j'espère qu'il gagnera en appel, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas où il en est, que ce pauvre Patrick Pauvre d'Arvor a eu, il a été condamné à 30 000 euros d'amende parce qu'il a utilisé des lettres d'une amie dans un de ses romans. Mais quand vous pensez que comme Monterland a publié Les Jeunes Filles, le premier tome des Jeunes Filles, c'est uniquement des lettres de lectrices. Quasiment uniquement. Tout le premier tome des Jeunes Filles, il y en a quatre. Eh bien, non seulement les jeunes filles, qui étaient absolument reconnaissables et souvent traitées très mal, il y en a une qui est complètement même ridicule et terrible, André Agbo, eh bien, non seulement les modèles n'ont pas envoyé leurs avocats à Monterland et à Grasset, mais elles disaient, André Agbo, c'est moi, Solange Dandillot, c'est moi. Elles étaient heureuses qu'un artiste, qu'un grand écrivain les immortalise dans une œuvre. Aujourd'hui, elle menace. D'ailleurs, qui ai publié 5 tomes de mon journal intime dans la collection de Philippe, qui dirige Philippe chez Gallimard, qui est l'infini, eh bien, Je peux dire, je donne un exemple très très précis qu'on a vécu tous les deux. Le premier volume qui apparaît dans sa collection, il apparaît en 90, Philippe l'a envoyé directement chez l'imprimeur, mais depuis 94-95, tout à fait normalement, et comme il a raison de le faire, parce que tous les éditeurs le font, c'est d'abord lu par les avocats. Maintenant, les vrais directeurs, c'est pour ça que Philippe n'a plus rien à faire. Les nouveaux directeurs littéraires, ce sont les avocats. Il y a un rétrécissement de la liberté. Moi, le cas de Patrick m'a frappé, parce que c'était quand même spectaculaire.
Vous l'avez cité, c'est un jugement qui est intervenu le 16 septembre 2011. Hein, j'ai noté la date. Philippe Solers, cette idée fixe, l'histoire est un mal, un grand mal qu'il faut convertir en bien. Oui. C'est ça qui donne ce que dit Gabriel Matzneff.
Je crois que le cœur de la question, c'est que tout est devenu sociologique. Dieu est mort. Bon, c'est un fait. Enfin, il continue à se décomposer. Il continue à se décomposer d'une façon tout à fait stupéfiante. Allahu Akbar. Bien. Mais enfin, il est mort. Mais c'est la société qui est devenue Dieu elle-même, qui vous avez la société. Tout ce qui n'est pas social ou socialement acceptable, avec évidemment les petites libertés qu'on vous laisse, quand même, il ne faut pas exagérer. Nous sommes en démocratie, la démocratie fonctionne à peu près, oui. Mais le problème n'est pas là. C'est que tout est vu de façon sociologique. En effet, pour un écrivain qui n'est pas un sociologue, mais qui en dit plus long sur la société de son temps que les sociologues de l'époque, et c'est pour ça qu'on relit Balzac, et Proust, et Céline, et parce qu'on apprend mieux ce que c'est que la guerre de 14-18 dans Céline, que dans des commémorations et des photos de pauvres poilus qui se font massacrer, on se demande bien pourquoi, avec du picrate comme simple boisson. C'est la littérature qui dit les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut empêcher? Donc, la lecture, ça, voilà, ça c'est la poubellication. La poubellication, comme voilà, on publie pas, on publie. Vous avez 557 romans qui sont en train de paraître. Heureusement qu'il y a le mien, parce que franchement, il y aurait de quoi désespérer la personne qui cherche quelque chose.
Mais dès que tout est mauvais, le reste.
Non, mais enfin, vous comprenez, le niveau n'est pas là. Alors donc, Kalachnikov, Matzneff est très bien, mon ami.
Mais c'est pas un roman, lui.
Mais on est très peu importe. Il y a du style. S'il y a du style, c'est que c'est bien. Donc, le problème, c'est l'oublier. C'est-à-dire que ma femme est psychanalyste et donc elle reçoit, elle ne me parle pas des cas sexuels qu'elle est amenée à traiter, qui sont, Dieu sait, extrêmement abrupts. Mais elle me dit souvent, que les gens viennent se plaindre, les hommes comme les femmes, de ne pas pouvoir mémoriser ce qu'ils viennent de lire. C'est drôle, ils ont oublié le paragraphe qu'ils viennent de lire, peut-être même trois phrases. Etc. Alors j'ai des médicaments pour ça, c'est-à-dire, par exemple, je dis à quelqu'un qui ne va pas bien, qui en est à des médocs complètement pourris, prosaïques, fiables, ou tant que vous voudrez, je dis, apprenez donc de la poésie par cœur. Par exemple, apprenez un poème de Baudelaire et récitez-le vous. Récitez-le vous. Et récitez-moi ça. Alors, je fais lire. Tu sais, Baudelaire, La Fontaine, voilà.
La mort du loup.
Et vous irez mieux, par exemple.
La mort du loup, c'est bien. Quelqu'un qui connaît par cœur encore La mort du loup, c'est un de mes amis que vous connaissez, qui est le philosophe René Scherrer, qui a fêté ses 90 ans l'année dernière. Il peut vous réciter La mort du loup. Il connaît lire tous les poèmes de La Fontaine, de tout le monde. C'est un homme extraordinaire parce qu'il appartient à une génération où on apprenait ses auteurs.
C'est pour ça qu'il a vécu si longtemps.
Mais oui, exactement.
Cette folie dont vous parlez, Philippe Solers, c'est que vous essayez de combattre par votre contre-folie. On va en reparler après les infos, mais là, il nous reste une minute. Vous la voyez où, là, aujourd'hui?
Partout. Partout dans l'intervention technique généralisée. Par exemple, il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle L'usine des cadavres. Sachez, cher monsieur TDI, que vous n'avez pas intérêt à avoir un accident sur l'autoroute parce que vous seriez, enfin, à moins que vous y opposiez, que quelqu'un s'y oppose, vos organes seront immédiatement retraités. Et donc, les grèves d'organes, la vente des organes, la vente des cadavres, l'usine des cadavres, je fais vraiment une enquête très précise là-dessus.
C'est pour ça que les gens maintenant préfèrent de l'incinération, comme ça ils sont à peu près sûrs qu'on va pas leur piquer un foie ou un...
Entre le moment où il meurt et l'incinération, il y a beaucoup d'organes que l'on peut prélever.
Vous, Jérémy, là, vous êtes effrayant.
Quand vous parlez du clergé fou médiatique, oui. De qui parlez-vous? À part de moi, bien entendu.
Bien sûr, vous êtes une des rares exceptions qui soit supportable, et même encourageable, et même décorable, et même adorable, et même vraiment, je m'incline.
Je ne pêchais pas que de compliments.
Je m'incline devant votre talent et votre liberté de penser, mais enfin, il faut bien avouer que la plupart du temps, c'est consternant, quoi. Enfin, moi, je zappe. Donc je vois les émissions politiques ou les événements d'État qui passent en boucle. En plus, vous avez les interviews, vous avez ceci, cela, etc. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus. Ce soir, il va se passer encore des choses.
Il n'y a pas que les journalistes. Hein. Vous parlez de la petite bourgeoisie branchée. Alors vous parlez des peintres, chanteurs, cinéastes. Comme toute cette activité, dites-vous, reste surveillée et plus ou moins subventionnée, le pouvoir existant n'a pas grand-chose à craindre.
Pas grand-chose à craindre, d'autant plus que l'art contemporain se charge de bousiller absolument tout. Vous n'allez qu'à voir visiter Pinault à Venise et vous savez de quoi il s'agit, mais vous allez à Hong Kong avec ce marché d'art contemporain qui monte en puissance. Je cite cette chose admirable, une jeune chinoise le marché explose. Bien non, c'est un marché de courte durée. Il faut vite revendre, sans quoi on est niqué à la sortie, parce que c'est pas Picasso tous les jours. Mais une jeune chinoise avec une pancarte absolument géniale, elle était très jolie. Art creates taste. L'art crée. Money creates taste. Voilà, l'argent produit le goût. Enfin, vous savez le mot de Warhol, arrêté d'acheter de l'art avec de l'argent, vous achetez de l'argent avec de l'art, oui. Enfin, bref, voilà.
On se retrouve juste après les infos.
Social Club, Frédéric Taddeï.
Nous sommes jusqu'à 22h30 avec Gabriel Matzneff qui publie les nouveaux Émiles de Gab La Rafale, son courrier électronique chez Léo Cher, et Philippe Solers qui publie un nouveau roman, Medium, chez Gallimard. Alors, parmi les différences qu'il peut y avoir entre vous deux, Gabriel Matzneff et Philippe Solers, mais il y en a une, c'est que vous parlez du manque d'argent. Gabriel Matzneff, le héros solercien n'a jamais de problème d'argent, il ne parle jamais d'argent.
Mais là, l'argent,
je parle de l'argent fou, justement.
Oui, l'argent fou, mais jamais celui que vous avez, héros solercien a dans sa poche. Ouais. Gabriel Matzneff, oui, s'il y va.
Dans mes romans, il n'y a pas tellement de questions d'argent, là, c'est un courrier, c'est des lettres, effectivement, c'est peut-être une période qui correspond à des difficultés financières. Mais l'argent est très important, oui, dans la vie, j'en gagne assez pour mener la vie que j'ai envie de mener, ça fait un certain nombre d'années que ça dure, et comme je crois beaucoup à mon bon génie, comme disent les anciens romains, ou à mon ange gardien, comme disent les chrétiens, à la providence, eh bien, je crois toujours à ma bonne étoile, disons à ma bonne étoile qui est plus laïque, comme nous ça. Ah oui, la laïcité. Alors, il y aurait encore, on pourrait faire, invitez-nous avec Philippe pour qu'on parle de la laïcité.
Mais on va y venir, si vous voulez, parce que vous avez tous les deux, alors, en permanence, des références à la religion,
je peux vous assurer, je pense comme Philippe pense comme moi, que vous savez, les gens disent je crois en Dieu, je crois pas en Dieu, ça n'a aucune importance. L'important, si Dieu existe, c'est qu'il croit en nous, n'est-ce pas? Mais que nous, microbes, l'opinion qu'un homme, même très intelligent, qu'un microbe sur cette terre peut penser, ça n'a pas grande importance.
L'essentiel. Pour vous, ce qui est très important, quand même, la religion est très importante.
Mais mon cher, si vous étiez une petite souris et quand nous déjeunons ensemble avec Philippe, nous parlons quasiment uniquement de théologie. Nous aimons la théologie. Je me permets de vous signer que le grand poème de l'athéisme, le De Rerum Natura de Lucrèce, commence par une invocation à Vénus. Ene deum genetrix hominum divumque voluptas alma Venus. Voilà, ça c'est de l'athéisme.
Terce mortales mutua vivunt et quasi cursores vitae lampada tradunt. Et on ne peut le faire que chez Taddeï.
On peut faire que chez Taddeï, exactement. Eh bien, voilà, on peut être athée, on peut dire que Dieu est mort, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser beaucoup à la théologie. Et moi, la théologie et l'Église, et puis j'aime les chants, j'aime l'encens,
Vous aimez
chœurs.
Surtout les schismes, vous êtes un schismatique par tempérament et par philosophie.
Oui, mais on est schismatique, un grand écrivain est nécessairement schismatique, n'est-ce pas?
Pas seulement.
Vous êtes un hérétique notoire, quand même.
Ah non, je ne suis pas un hérétique.
Non, schismatique, voilà.
C'est la question du filioque, on va pas...
Le filioque est bien tardif, celui du siècle.
Tout de même, cher ami, avouez.
Moi, je reste au concile de Nicée.
Oui, je sais.
Je veux dire, vous êtes d'accord avec moi. Vous savez très bien que ce filioque est une connerie, n'est-ce pas?
Ne me dites pas quand même que ces histoires de... Parce que je reprends un peu la main sur mon terrain. Ces histoires de pape fonctionnent d'une façon gigantesque. Vous avez vu que le président Hollande, qui est très réservé sur ces questions...
C'est une litote, mon cher Philippe.
Et qui ne semble pas avoir en bon corésien... il ne semble pas avoir beaucoup accès à la transcendance, d'ailleurs que son prédécesseur qui lisait ses SMS avec Bigard en tapant sur l'épaule de Benoît XVI en se faisant introniser Chanoine. Enfin, les scènes étaient d'un comique extravagant. Là, nous venons d'apprendre que le 24 janvier, c'est à suivre,
hein,
le président Hollande va voir le pape François. Vous savez que c'est la première fois, c'est passionnant. Il n'y a qu'avec lui qu'on peut parler de ça. Il n'y a qu'avec Tadei, j'insiste.
C'est pas avec moi que vous en parlez, c'est avec tous nos auditeurs.
Oui, mais
ils vous écoutent. Finissez votre phrase.
Vous savez bien que ce pape François, qui a choisi le nom de Saint François d'Assise, est un jésuite, cher ami. Ah, alors, c'est le premier pape jésuite. Donc, il fait ce que la Compagnie de Jésus lui dit de faire. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Quelle est la cible de ce pontificat? Et ça, nous allons y revenir si vous voulez, c'est la Chine. La Chine est l'objectif principal.
Le reste, la Chine, ce sont vos deux sujets de prédilection, Philippe.
C'est une vieille histoire jésuite.
Parce que c'est l'avenir.
Gabriel Matzneff, vous, alors de votre côté, vous voyez l'islamisation de la France, mais comme inéluctable, hein, mais pas du tout d'un point de vue raciste de changement de population. Religieux.
Le mahométanisme nous réserve toujours. C'est des femmes qui seront à plein nœud, nous en tirons très très bien. Casanova était. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis au XVIIIe siècle, notre grande époque. Beaucoup de gens dans Saint-Simon. Alors Saint-Simon, un de nos dieux. Saint-Simon, il n'y a que des. Il y a plein de types. Il y en a deux ou trois, mais c'est d'une drôlerie extraordinaire qui partent chez les Turcs et se convertissent et ils sont très très bien. Ils ont des vies très heureuses. Non, je veux dire simplement, c'est une illusion. De croire que quand un dieu meurt, ce que rêvent tous les bouffeurs de curés, etc., c'est la raison, c'est le voltairianisme qui va triompher. Non, ça se passe pas comme ça. Lorsqu'un dieu meurt...
C'est-à-dire une religion. Catholicisme, par exemple, ou le christianisme chez nous.
Écoutez, avant Notre-Dame, il y avait un temple de la déesse Isis. Et ensuite, c'était Notre-Dame. Et puis ensuite, si les églises sont vides... Alors, d'un côté, vous avez des chrétiens qui ne vont plus dans les églises et qui même ne veulent plus les entretenir dans les villages. Et en même temps, vous avez d'autres citoyens, des milliers de citoyens qui demandent des mosquées. Eh bien, c'est une question de vase communicant. C'est tout.
Si un dieu meurt, un autre dieu le remplace.
Nous connaissons des gens, nous en avons parmi nos amis, qui disent qu'ils ne sont pas très contents parce qu'on parle toujours du ramadan. Vous ne faites plus le carême. Laissez les gens qui vont... Puisque si les catholiques, ou les chrétiens en général, ne vivent plus leur christianisme, eh bien, ils ne peuvent pas reprocher aux autres de vivre leur religion. Ouais, certainement, évidemment. On pourrait espérer Voltaire et l'abbé Galliani et le scepticisme...
Voltaire était déiste, attention.
Le grand horloger, si vous voulez.
Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez bien que les nations sont bêtes, les peuples sont bêtes, et vous allez voir ce que ça va donner. Moi, je ne le souhaite pas du tout, mais j'ai l'impression, je ne pense pas que les Lumières vont, le christianisme étant vraiment en déconfiture, bien qu'il y ait encore des grands saints, et que vous me direz que ce qui est important dans l'Église, c'est la sainteté, ce sont les saints, c'est les saints qui sont passionnants dans l'Église. Mais enfin, voilà, mais cela dit, moi, pourquoi pas Mahomet,
pourquoi les Français vont mal, pourquoi, etc., etc. La Révolution française...
Oui, recommencez pas, vous l'avez dit.
Ah non, je ne l'ai pas dit sur le point essentiel en question. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Révolution a décidé à propos de Dieu? Ça a été un sujet absolument crucial, avec des têtes qui roulent dans la sciure, j'aimerais tant vous dire. Premier point, est-ce qu'on intronise la déesse raison? Vous aviez la première manifestation féminine, c'est passé à Notre-Dame de Paris, avec une actrice qui s'appelait Mademoiselle Maillard, en voile transparent, qui s'était allongée sur l'autel. Bon, les féminines devraient lui rendre hommage. C'est vraiment l'ancêtre de tous les mouvements féministes. Elle sait pas beaucoup, elle n'y avait pas encore de tatouage. Bon, mais bon. Mais deuxième, ça n'a pas plu à Robespierre parce qu'il trouvait ça un peu désordonné. Enfin, ça venant, alors du coup, il a contre-attaqué. Vous avez eu l'être suprême. Le discours de Robespierre, instant le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme, c'est un discours absolument terminant à suivre, parce qu'on lui a reproché
interminable,
ça.
Ce discours.
Admirable.
Interminable.
Interminable, mais admirable. Robespierre lisait ses textes, alors que Vergniaud, le Girondin, ça passait pas parce qu'il improvisait, donc c'était une preuve de désinvolture élitiste.
Mais il y a des Girondins qui improvisent très bien, vous en êtes la preuve.
Oui, mais bien sûr, c'est inné chez nous. Donc, non. Donc, la fête de l'être suprême, ça a été quelque chose. Pourquoi ? Sur les cimetières, vous aviez une inscription « La mort est un sommeil éternel ». Bon, Robespierre a trouvé, mais l'athéisme était par de monter. Mais Robespierre dit, vous allez désespérer le peuple. On va inscrire désormais sur les cimetières la mort et le commencement de l'immortalité. Ça change tout. Si je meurs mais peut-être que je suis immortel. Vous voyez. Et après l'être suprême, il y a eu une fête gigantesque, des milliers dans Paris. Imaginez ça, François Hollande refondant l'être suprême. Alors, ça serait beau.
J'espère qu'il écoute l'émission, parce que ça pourrait enfin lui donner une bonne idée.
Europe 1 Social Club. 21h, 22h30. Frédéric Taddeï.
Avec Philippe Soler, c'est Gabriel Matzneff. Il y a quelque chose que vous avez en commun, évidemment, tous les deux. Ce sont les femmes, mais vous en parlez beaucoup dans vos livres respectifs qui sont parus tous les deux aujourd'hui même. Vous avez, c'est vrai, une réputation entretenue par vos soins, d'ailleurs, de libertin.
Nous sommes des pêcheurs actifs, n'est-ce pas ? Mais libertins, oui, nous aimons la liberté. Nous avons la liberté et nous avons le courage de vivre nos passions à fond la caisse. Si ça fait de nous des libertins, acceptons l'adjectif, qui n'est pas vilain d'ailleurs.
Oui, on peut le remplacer par casanovien. Vous êtes casanovien, tous
ça,
les deux.
C'est différent.
Faites bien la différence d'ailleurs avec casanoviste.
Oui, casanoviste, c'est les gens qui sont au Collège de France.
C'est les docteurs en casanovisme, alors que vous êtes juste des amateurs.
Voilà. Non, cela dit, nous avons, je pense, je peux parler au nom de Philippe dans cette occasion, nous avons vraiment, sérieusement, le plus profond respect pour certains casanovistes qui, depuis le 18e siècle, le 19e, travaillent avec passion et on fait découvrir des textes, enfin, cette passion. Mais nous avons une approche plus concrète sujet.
Vous plaignez d'ailleurs dans votre livre, dans un de vos Émiles, Gabriel Matzneff, de nos littérateurs d'aujourd'hui qui ont une expérience des femmes abstraites, dites-vous. Ils écrivent des livres de cul tout en menant de prudentes vies de petits bourgeois pantouflards. Tout ça n'est pas vécu, pas incarné pour vous.
Eh bien, je pense qu'il y a une grande différence entre une littérature purement cérébrale. Il y a des gens qui font des livres avec des fiches de lecture. Quelqu'un que, par ailleurs, qui est peut-être un très grand écrivain, je pense à Umberto Eco, n'est-ce pas, qui a fait des livres très très savants avec, en passant des journalistes. Bon, et c'est
ça
une autre.
Ça manque de sève. Vous avez vu une femme chez Eco? J'en ai jamais. Le problème n'est pas la pantouflardise, etc. C'est la misère. C'est-à-dire que la misère, le fait de vivre la vie le libre d'abord, et ou libertine ou libertaire, hein, de façon malheureuse. C'est l'identité malheureuse de notre cher Alain Finkielkraut. Peut-on encore être français aujourd'hui? Oui. Moi, je suis pour une identité heureuse, pleinement affirmative. Ou alors, vous avez quelqu'un de génial qui est venu déposer son dossier et ses romans, et qui a eu un énorme succès à cause de ça, c'est Houellebecq. C'est-à-dire vraiment avec le fait que ça ne menait qu'à l'angoisse, qu'à la destruction de la possibilité du Nil est un livre étonnant de ce point de vue. Et ce qu'il a écrit a été avec un succès considérable, donc ça a répondu à une description en profondeur de la misère sexuelle. Or, tout le monde vous dira que c'est l'explosion sexuelle partout, que tout le monde se cherche sur les sites, que vous avez la géolocalisation. J'appelle un numéro à New York. Bon, vous le savez, ça, je raconte ça dans Medium, c'est ahurissant, c'est très bien. J'appelle un numéro à New York qui me dit exactement quelle rencontre homosexuelle.
Oui, ça marche mieux avec les homosexuels qu'avec les hétéros. Hein.
Il y en a 200 000. Oui, mais bien sûr, oui, parce que et voilà, justement, il faut se poser la question pourquoi un désir peut être satisfait sans blabla, sans relation sentimentale et rapidement dans le parking qui est à côté de chez moi, alors que je téléphone à New York.
Mais tout ça n'a rien à voir effectivement avec l'allégresse, avec la joie de vivre, avec l'élan vital. C'est tout ça est un petit peu triste.
C'est de la consommation rapide et mal faite
et malheureuse.
Et malheureuse.
Casanova encore quelque chose à nous dire aujourd'hui au 21e siècle?
Naturellement, d'abord parce que c'est un très grand écrivain, avec un grand écrivain a toujours des choses à nous dire, et je dois dire que l'achat par la France, cette extraordinaire exposition de la nouvelle bibliothèque Mitterrand a été une très grande joie. Et puis alors ce manuscrit que Broca, est-ce qu'on vous pensez qu'il aurait pu 100 fois être détruit par les guerres et tout, c'est vraiment formidable. D'abord qu'il soit arrivé chez Broca alors qu'il aurait pu simplement être détruit, comme a été sans doute détruit le corps de Casanova en Bohème. N'est-ce pas? Il aurait même jamais. C'est déjà miraculeux. Non, mais là, c'est l'incarnation même de la liberté et aussi de la générosité, de la gentillesse. Quand on lit les lettres d'amour qui nous sont encore parvenues, que lui écrivent des très jeunes filles, il a 70 ans, il y a une jeune fille de 16 ans, il y a Cécile, n'est-ce pas? Et puis même, toutes ces deux filles, il y avait une fille qui avait. On voit bien que c'était un homme très attachant, très très aimable, très digne d'être aimé. Et puis enfin, quelle vie, quelle. Alors là, vraiment, c'est une. Ça vaut tous les. Ses mémoires, c'est son histoire de ma vie. C'est un remontant extraordinaire, n'est-ce pas? Et ça nous donne à nous l'énergie pour vivre à fond ce que nous avons à vivre. C'est ça les grands livres. Ils donnent de l'énergie, et de siècle en siècle, c'est comme les champions olympiques, on se passe le flambeau, et ça, ce flambeau de l'énergie vitale, du plaisir de vivre, de la curiosité, et puis alors il voyage, il bouge, il va, enfin voilà, non, c'est formidable. C'est le grand européen, c'est un grand européen.
Ça fait des années que je demande qu'on fouille la petite église en Bohème que j'ai découverte, je crois, et c'est la seule photo où il y a une plaque très émouvante. Jacob Casanova en allemand, il a fini ses jours là. J'ai vu le fauteuil où il est mort. C'est très, 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 très impressionnant. Et il y a une plaque, Jacob Casanova, Venedig, en allemand. Et je demande, depuis j'étais là, on me dit, oh, mais la personne qui a les clés devient une fois par semaine, etc. Si on sortait du régime communiste, bon, le chèque. Et donc, j'ai demandé 10 fois qu'on fouille pour trouver, je ne sais pas, peut-être un fémur. Et que ce fémur, ou ce tibia, ou peut-être le crâne, soit enfin enterré au bas du palais des Doges à Venise, pour une cérémonie absolument sensationnelle.
Puis dans un reliquaire.
Non, bien exposé à la vie. Non, parce qu'il s'est échappé des plombs par les toits. Donc c'est une évasion célèbre. Il a raconté ça dans toute l'Europe, ça l'a rendu célèbre. Donc, voilà, les corps constitués, l'armée, la police, le clergé, le président de la République, tous les prêtres, enfin que tout le monde assiste à l'enterrement solennel de Casanova, du lieu d'où il s'est échappé d'une façon tout à fait extraordinaire. L'évasion est fabuleuse. S'évader, tout est là.
Dans votre livre, Gabriel Matzneff, vous avez des mots très durs pour le milieu littéraire incarné, je ne sais pas, à vos yeux, par Philippe Solers, directeur d'une collection chez Gallimard, quand même très influent dans tous les jurys, comme on le sait. Vous dites, le milieu littéraire, je chie sur le milieu littéraire, on est en septembre 2011. Il faut dire que vous n'avez jamais eu de prix littéraire. Enfin, vous n'aviez jamais eu de prix.
Oui,
Philippe Solers non plus, d'ailleurs, vous n'avez jamais eu de prix non plus.
Oui, mais d'ici, quand j'étais
jeune. Ah oui, si, c'est vrai. Depuis, vous avez eu le prix Renaudot Essai, pour Serra enfin, c'est la fin, vous l'avez eu là en novembre.
Eh ben, c'est pas mal du tout.
Donc vraiment, vous pensez autant de mal que ça du milieu littéraire, sauf quand ils vous donnent des prix, donc.
Mais non, c'est pas ça, mais je trouve que les hommes de lettres, mais je suis moi-même, j'appartiens, on peut dire du mal de son milieu, comme on peut dire du mal, on a le privilège de dire du mal de sa patrie, de son président de la République, de son église, on est là, on est ronchon. Si on est, moi je suis peut-être d'origine étrangère, mais je suis un vrai français parce que je ronchonne beaucoup, je râle, je suis un râleur. Donc on ronchonne. Non, le milieu littéraire, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, que les gens vivent de petites vies misérables, où ils sont un peu aigris. Non, voilà, ce que je reproche, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup d'aigris, beaucoup de ce que Nietzsche appelle les hommes de ressentiment. Des gens qui sont un petit peu malveillants, un petit peu jaloux, il y a quand même ça. Vous me direz que c'est vrai de tous les milieux. On me dit qu'entre médecins, entre avocats, c'est la même chose. Mais je trouve que chez nous, il n'y a pas d'excuses. Est-ce que je dis ça en 30 secondes? Quand quand un metteur en scène cherche un rôle pour la Violaine de reprendre la pièce de Claudel, il y a qu'une actrice qui peut. Alors là, que des jeunes actrices soient un peu jalouses entre elles, ou bien une danseuse étoile. Mais nous, une génération d'écrivains, nous ne portons absolument pas ombrage, que nous sommes nés la même année, nous sommes tout à fait des contemporains, la même année aussi que Berlusconi, d'ailleurs, soit dit en parenthèse, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais enfin, nous sommes tous les deux, nous avons le même âge. Mais nous ne sommes jamais gênés. L'œuvre de Philippe est celle de Philippe, la mienne, c'est la mienne, et il y a d'autres écrivains, c'était celle aussi. Enfin, je veux dire, tandis que des écrivains n'ont aucune excuse d'être jaloux. Mais il y a des gens qui sont jaloux, il y en a beaucoup, et même qui sont jaloux de gens plus jeunes qu'eux, ou plus vieux qu'eux. D'ailleurs, c'est terrible, la jalousie littéraire. Je comprends la jalousie amoureuse, la folie amoureuse, la passion, l'exacerbation de la passion, et donc ça peut être jaloux. Mais dans la vie professionnelle, dans la vie littéraire, je trouve ça lamentable. Et c'est ça qui me fatigue, ces hommes de lettres. Nous sommes des écrivains, je n'aime pas les gens de lettres. Voilà, les hommes de lettres... Voilà.
Il y a une folie du milieu littéraire, des gens de lettres.
D'abord, il faut bien souligner le mot milieu. Hein, comment ça s'appelle, le milieu. Hein, c'est le milieu, quoi. Hein, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de publier des gens plus jeunes qui n'ont pas le temps beaucoup de pouvoir s'affirmer. Tout est devenu très, très difficile, beaucoup plus difficile qu'il y a longtemps, pour des gens qui ont 25, 22, 25, 30 ans. C'est le premier livre qu'il est pris, le deuxième ne le sera pas forcément, etc. Ma modeste activité consiste à essayer de les mettre en avant et d'essayer de qu'ils puissent continuer à exister. Comme on a beaucoup d'années de différence qui peuvent raisonnablement espérer me survivre biologiquement, ça crée des contacts agréables. C'est vrai que des gens qui ont entre 50 déjà et 80 par là, qui n'ont pas forcément déjà atteint deviennent épouvantablement méchants, quoi. Il faut dire, c'est comme ça. Alors ça commence à partir de 40, ça commence de plus en plus tôt. Moi, je fais confiance à des gens qui ont entre 20 et 35 ans. Après, sauf Tadi qui a un peu plus, je crois, mais enfin, mais à peine.
Mais moi, je ne suis pas écrivain, donc je ne vous fais pas don.
Je vais trop tard pour commencer.
Mais c'est un sentiment du humain, de jalousie.
Mais je vous remercie tous les deux d'avoir passé cette émission avec moi. Philippe Sellers, Medium, votre nouveau roman est paru aujourd'hui chez Gallimard. Et Gabriel Matzneff, Les Nouveaux Émiles de Gabla Rafale, c'est votre correspondance électronique, est paru aujourd'hui chez Léo Cher. On se retrouve lundi dans un instant, c'est Europe Nuit avec Emmanuel Faux.